Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Livre des Actes des Apôtres, c'est ainsi que, ou le livre des Actions des Apôtres, on peut le dire aussi de cette manière, au chapitre 5. Nous allons commencer au chapitre 4, à la fin du chapitre 4, verset 34, et puis ensuite nous poursuivrons. Alors, c'est un récit quand même qui qui n'est pas très fréquent, surtout dans l'événement que nous allons découvrir. C'est parmi les textes que nous trouverons rarement dans le Nouveau Testament, et vous allez comprendre pourquoi, ici, cette lecture. Alors, Actes chapitre 4, verset 34. C'est un zoom, si vous permettez l'expression, eh bien, de ce qui se passait dans l'Église primitive, c'est-à-dire les tout premiers jours, les premières semaines, peut-être les premiers mois, lorsque, eh bien, l'Église chrétienne est née. Voilà comment ça se passait. Alors, verset 34. « Car il n'y avait parmi les chrétiens, parmi eux, aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » Mais, alors, verset 1er, chapitre 5, « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Il retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» et que tu aies retenu une partie du champ, du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas ? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte, et ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alors vous reconnaîtrez que c'est quand même un sujet assez particulier. Le prédicateur n'est pas très à l'aise de prêcher ça. C'est vrai que c'est des choses assez rares, des exemples assez rares dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est autre chose. Mais cette histoire d'Ananias et Saphira, l'histoire d'Hérode qui va tomber à un moment donné, mort, parce que il s'est moqué de Dieu, il a tenté Dieu, il a défié Dieu, mais dans l'ensemble, on est quand même dans la dispensation de la grâce et on pourrait quelquefois être choqué pour le lecteur qui pose les regards pour la première fois en disant « Mais moi je crois que Dieu est un Dieu de miséricorde. » C'est vrai que c'est assez choquant. Et on est quand même dans une autre relation aujourd'hui, même à partir du Nouveau Testament qui est vraiment le pardon et la grâce. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? J'aimerais justement, eh bien, à travers quelques mots, exprimer un petit peu le fond de l'histoire, parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails de la mort de l'un, la mort de l'autre, voilà, hein, comment ils se sont entendus pour non pas tromper les hommes, parce que vous avez remarqué, hein, Pierre le dit, vous avez menti au Saint-Esprit, vous avez menti à Dieu, vous avez tout simplement, et bien là, joué un jeu qui n'est pas digne, et bien d'un chrétien. Mais était-il vraiment chrétien? La question, elle est là. Parce que dans ces premiers temps de l'Église, il y avait énormément de gens. On a vu qu'il y avait une solidarité extraordinaire. Pauvres gens, qui étaient venus certainement par dizaines, par centaines, venir écouter l'Évangile et leur vie était transformée à la prédication, bien de Pierre, de Jean, enfin, ce que nous apercevons, ce qui apparaissent dans les premières lignes du livre des Actes. Et il se fait des choses extraordinaires. Il y a des miracles, il y a toutes sortes de choses. Parce que Jésus avait dit à ses disciples, « Eh bien, moi je vais partir, mais après moi, eh bien, je vous donne le mandat de prêcher l'Évangile, et il se fera des choses encore beaucoup plus grandes dans le temps et dans l'espace. » Et nous voyons que ça n'a pas attendu. Jésus monté au ciel, aussitôt les apôtres vont prêcher un petit peu partout, ça commence à Jérusalem. Et vous avez remarqué avec moi, j'ai voulu le lire quand même, il nous a dit qu'il n'y avait pas d'indigents. C'est-à-dire que ils avaient compris le message de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Soyez généreux, les riches partagent avec les pauvres. Ça c'était véritablement eh bien, le grand message hein, que Jésus était venu apporter. Et vous avez remarqué, j'ai commencé par là parce que ça fait contraste avec la seconde lecture. Il n'y avait pas d'indigence, tous ceux qui possédaient des champs, quelques moyens, quelques propriétés, de l'argent, eh bien tout cela, ils apportaient le prix, tout simplement aux pieds des apôtres, non pas pour que l'Église s'enrichisse, l'Église chrétienne s'enrichisse, elle a trouvé la façon après hein, de s'enrichir l'Église chrétienne, qui n'était plus chrétienne, hein, faut quand même le signaler, mais c'était justement pour pourvoir aux besoins, eh bien de toute cette population, de tous ces pauvres gens qui venaient, et voilà comment ça se passait. Hein, c'était les premiers temps, hein, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas, sinon une organisation, ils étaient déjà vraiment dans l'humanitaire et dans le social avant le temps, hein, parce que c'était le cœur qui parlait, c'était pas tout simplement, eh bien là, un mouvement de sympathie ou d'empathie, mais il y avait véritablement des conversions. Et les gens disaient, ben moi, j'ai à manger, et je vois à côté de moi des hommes que je peux maintenant appeler des frères et des sœurs et qui n'ont pas de moyens, alors moi je donne, tout simplement. Ça a dû être un mouvement extraordinaire. Et vous allez voir que, en conclusion, eh bien il y a eu une bénédiction extraordinaire ensuite. Voilà, dans ce mouvement. Voilà, c'est on a un peu campé le... Alors, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'ils avaient besoin. Et puis voilà que nous arrivons au chapitre 5, et ça, ça change un peu de régime. Il nous est dit « mais ». Conjonction de coordination qui fait la transition entre cette générosité, cette libéralité, cette charité qui s'exprime spontanément, et puis cet homme qui s'appelle Ananias et Saphira, qui peut être au premier abord compté comme un, comment pourrait-on dire aujourd'hui, un nouveau converti. Pour quelqu'un qui vient de découvrir Jésus-Christ, qui vient de découvrir l'Évangile, et que, en apparence, sa vie est transformée. Et voilà qu'il se passe une chose particulière, c'est qu'ils ont fait comme tout le monde. Ils ont vendu une propriété, qu'ils avaient un champ ou autre chose, peu importe, hein. Et ils se sont dit, il y avait du calcul dans leur démarche, ils se sont dit, bon, d'accord, pour bien faire, ou pour avoir l'air d'eux, pour... avoir un comportement qui puisse, eh bien là, dire que nous aussi, nous participons. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bien vendu leur bien. Mais, tout simplement, ils ont retenu une partie. Alors, ils ne nous ont pas dit dans quelle proportion, mais ils ont retenu une partie peut-être importante. Et ils en ont apporté le reste, avec certainement... un visage bien entendu en disant, regardez, nous aussi nous faisons comme tout le monde. Nous aussi nous voulons participer. Alors nous avons vendu notre propriété. Les apôtres ne savaient pas combien ils avaient vendu. Mais ils ont apporté une partie en disant, ben, regardez, hein, nous sommes des vôtres et nous sommes au milieu de vous et nous compatissons et bien là à tous et nous participons à tout ce qui se fait. Et il l'a déposé au pied des apôtres. Bon, jusqu'ici, pas de problème. Ça a l'air d'être à peu près conforme. Mais à un moment donné, Pierre, et on va voir un petit peu toute l'ironie qu'il peut y avoir, l'ironie de Pierre, parce que on dirait quelques mots. Pierre lui dit, Ananias, il y a une parole de connaissance à ce moment-là. L'apôtre, qui lui avait eu des gros problèmes il y a quelques semaines auparavant, et on va en parler tout à l'heure, eh bien, il va lui dire, mais Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit ? Pierre, à ce moment-là, bien converti, bien rétabli sur ses pieds avec l'autorité que Dieu lui a donnée, eh bien, va dénoncer devant tous. Voilà, devant tous. Il va dénoncer le stratagème d'Ananias en disant, mais comment as-tu pu, pour une telle œuvre et devant une telle situation de nécessité pour les pauvres, toi peut-être qui es riche, on ne sait pas, mais comment as-tu pu laisser le Satan remplir ton cœur? C'est grave, hein? En principe, quand quelqu'un se convertit, il n'y a plus de place pour le diable, hein? Enfin, il n'y a plus de place pour le mal. Il n'y a plus de place pour le mensonge. Comment as-tu pu laisser Satan remplir ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? C'est pas aux hommes que tu as menti, mais le mensonge est dévoilé par un homme qui s'appelle Pierre. Comment tu t'es entendu et as-tu retenu une partie du chant? Et il va lui faire un petit peu la morale, si on peut dire. Enfin, comme certainement Ananias était un calculateur, Pierre va lui poser une question et puis une réflexion, une analyse. Il dit, mais s'il n'avait pas été vendu ton champ, ben, il te restait et l'argent était à toi. Tu n'étais pas obligé de faire ça. C'est parce qu'il y a eu un mouvement, t'as voulu te conformer, tu as suivi comme un mouton de panurge, excusez-moi l'expression, mais tu t'es conformé un petit peu parce que tout le monde le faisait. Pourquoi l'as-tu fait? Parce que finalement, t'étais pas obligé de le faire. Dieu n'oblige personne. C'était finalement de ton droit, de ton libre droit, de faire ou de ne pas faire. Personne ne t'aurait rien demandé. Alors on y devine un petit peu l'hypocrisie dans cette affaire, pour être bien, pour faire bien, pour se rendre peut-être, eh bien là, important, je ne sais pas, on peut toujours deviner n'importe quoi. Hein. Alors, mais ce prix, il t'aurait resté. Et après qu'il ait été vendu, le prix que tu as retiré de cette vente, mais il restait à ta disposition, personne ne t'a demandé, finalement, de venir donner cet argent, il était pour toi. Que tu gardes ton champ dans l'état, ou que tu gardes ton argent parce que tu as vendu ton champ, mais c'était à toi personne. Le problème chez Ananias, c'est qu'il a voulu faire comme. C'est qu'il a voulu laisser apparaître des choses qui n'étaient pas. Tout simplement. Et là, on voit la différence flagrante. C'est évident que finalement, eh bien, il n'a pas agi selon sa conscience. Il n'a pas agi dans la vérité, il n'a pas agi dans la droiture. Il a agi d'une manière qu'on puisse dire, eh bien, monsieur Ananias, vous savez, ça se faisait peut-être dans ce temps-là, ça se fait encore, hein, bah, il a fait ceci, il a fait cela, et puis voilà, hein, on lui rend tout simplement les hommages et tout ce que vous voulez. Quel était l'esprit d'Ananias dans cette affaire, hein? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein, si ce n'est pas à des hommes que tu as menti, ou ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu? Et je crois que quand on touche à ce niveau, finalement, de la vie spirituelle, on peut toujours tromper les hommes d'une manière ou d'une autre. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu le sait. Et là, c'est écrit. C'est pas écrit dans l'Ancien Testament, mais c'est écrit dans le Nouveau Testament. Certains commentateurs ont pu penser qu'il s'agissait du péché contre le Saint-Esprit. Il connaissait la vérité, il avait entendu l'évangile, il avait vu des miracles, il avait vu des guérisons, il avait vu l'effusion peut-être du Saint-Esprit lui-même. En avait-il reçu une partie? Mais enfin, tous les cas, il n'avait pas retenu beaucoup. Hein. C'est ça le problème chez Ananias. Et bien là, il nous est simplement rappelé, mais comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Comment as-tu pu penser? On trompe les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. C'est pas possible. Je voudrais illustrer cela et on va continuer un petit peu plus loin. On est tous passés devant des transformateurs électriques. Alors vous allez me dire où il va chercher les choses. Je suis pas électricien. On a tous vu devant des grands pylônes, surtout des pylônes à haute tension, il y a une pancarte où il y a marqué haute tension, il y a des éclairs, enfin un signal, hein, qui se prolonge vers la terre, et il y a danger de mort. On l'a tous vu, ça. Si vous regardez en sortant, sur notre petit transfo là-bas, sur le conducteur, il y a une petite trappe, mais vous pouvez pas y toucher, c'est trop haut. Mais toujours est-il qu'il y a là vraiment quelqu'un qui est foudroyé. qui est foudroyé. On sait que il nous est dit que Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira. Voilà. Voilà, c'est bizarre. Hein. C'est pour ça que je fais la relation avec ce phénomène physique de l'électricité. Alors, il est peut-être mort de... Il n'y avait pas le courant à l'époque. Hein. Mais toujours est-il que c'est la soudaineté et c'est la violence que je voudrais souligner. Parce que lui, il avait fait les choses en douceur, il avait fait les choses en dissimulation, il avait fait les choses comme ça, mais c'est terrible parce que ce qui lui arrive, c'est soudain. Ça lui arrive d'une manière tellement... Et c'est vrai que cet avertissement que nous trouvons, et ça c'est obligatoire, on est obligé, hein, peut-être pas dans les domiciles privés, mais là partout, en entreprise partout, il y a toujours cette nécessité de mettre des avertisseurs, enfin un avertissement, danger de mort. Et c'est toujours, bien sûr, une commotion hein, brutale et parfois mortelle, ça dépend naturellement de l'intensité hein, du courant. Je voudrais faire une deuxième remarque par rapport à ça. C'est que je vais l'associer, ce phénomène de commotion, où là, eh bien, Ananias va tomber d'un seul coup. Bon, il n'y a pas de secours. Hein. Et pour la compréhension du phénomène naturel, je voudrais y rapprocher le phénomène spirituel. Alors, je vais être simple. Je voudrais dire d'abord qu'il y a quelque chose qui est essentiel pour Dieu. Je dirai le mot d'ici une minute. Une chose essentielle. Mais d'abord, je voudrais dire que la vie et le bien sont, on pourrait dire, si vous me permettez, organiquement liés. Vous avez bien entendu, la vie et le bien. Je n'ai pas parlé de la mort. Je parle de la vie que Dieu a créée et le bien dont Dieu est le Créateur et dont il nous informe, dont il veut répandre et dont il a créé l'homme pour qu'il pratique le bien. La vie et le bien sont liés. Et ça constitue cette fameuse vérité qui est parmi les premières vérités de la nature de Dieu, c'est la sainteté. La sainteté. Dieu est amour, Dieu est vérité, Dieu est éternel, il est infini, il est incréé. Dieu n'a pas de semblable, Dieu est créateur, Dieu est rédempteur, alors on peut multiplier à l'infini, hein, naturellement, et bien là, les prérogatives divines, uniques, elles sont non communicables à l'homme. La sainteté, la vérité, et tout ce qui fait que Dieu est naturel. Alors, nous n'avons qu'une petite partie, hein. Petite idée de sainteté, petite idée de vérité, et puis tout le reste, hein, naturel. Donc, la sainteté. Et je lis les trois mots, la vie, le bien et la sainteté. Pour nous montrer que, et d'abord je voudrais souligner le paradoxe, parce que ce n'est pas un autre apôtre qui va être interpellé par Dieu pour aller dire à Ananias, tu as menti au Saint-Esprit, parce que tu as fait ceci. Il va disposer d'un don spirituel qu'on appelle le don du discernement, le don de révélation, le don de discernement. Et le don du discernement, c'est connaître à l'instant des choses que, humainement parlant, on ne pourrait pas savoir, mais qui sont révélées sur le moment, dans l'instant T, et qui sont des réalités. En quelque sorte, c'est ce qui se passe. Et vous avez vu que c'est Pierre, c'est pas Jean, c'est pas Jacques, c'est pas les uns et les autres, mais c'est Pierre précisément, qui est le protagonisme du drame qui a dit à un moment donné, quand Dieu l'a appelé, quand Jésus l'a appelé plutôt, sur la barque, quand il lui a dit, viens et suis-moi. Et à ce moment-là, Pierre a répondu à Jésus, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Pierre, à ce moment-là, va bientôt rentrer dans une nouvelle mission, il va tout abandonner, mais il avait conscience que Jésus était Dieu, que Jésus était le Messie, et il touchait du doigt, il aperçut à ce moment-là que Jésus était saint. La sainteté du Fils qui allait révéler la sainteté du Père qui est dans les cieux. Et il dira à ce moment-là, bien retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, qu'est-ce que je peux faire? C'est quelque chose de terrible. Et dans l'Ancien Testament, il n'était pas possible de voir Dieu vivre, hein. On le sait, hein, à cause de la corruption humaine, à cause de la déchéance des hommes. Et puis après, il y a eu son reniement. Et c'est curieux que Dieu va choisir, hein, tout simplement Pierre pour dire à Ananias, tu as menti au Saint-Esprit. Tu as péché. Alors que Pierre, finalement, lui-même, ça lui est arrivé. Mais les choses ne sont pas pareilles. Parce que Pierre a su se repentir. Parce que Pierre a su pleurer sur son péché. Et là, il a vu à un moment donné tout ce qu'il pouvait y avoir de saint dans la personne de Jésus. Et on sait que c'était son relèvement. Il y a une observation que je voudrais faire maintenant. Et je reviens à mon phénomène électrique. Toucher un câble à haute tension, ça peut arriver par accident, c'est certainement être foudroyé immédiatement. Hein. Alors bon, on a tous fait l'expérience. Moi, quand j'étais enfant, un jour j'ai voulu voir avec deux bâtons en fer, deux petits morceaux en fer, le mettre dans une prise électrique. Je m'en souviendrai toute ma vie, je devais avoir 8 ans à l'époque. Mais je m'en souviendrai toute ma vie. Ah oui, j'étais devenu une lumière. Je me suis mis à éclairer. Bon, faut-il que les enfants le fassent une fois? Enfin, c'est pas à faire, hein. C'est pour ça que maintenant on a des précautions, on met toutes sortes de choses. Mais je peux vous dire que ça guérit, hein. Bon, c'était peut-être du 110 à l'époque, hein. Hein, on connaît plus le 110, hein, maintenant. Ouais, ça devait être ça. Alors bon, ça fait dresser un peu les cheveux, mais bon, ça n'a pas trop de conséquences. Alors, celui qui touche une ligne à haute tension et qui brave l'interdiction qu'il ne faut pas, hein, ne pas ramasser les fils qui sont tombés par terre, etc., etc., et on le sait, ça, hein, eh bien, c'est mourir. C'est mourir. Dans le sens le plus strict de l'histoire que je suis en train de prendre, hein, c'est mourir. Hein, c'est mourir électrocuté. Parce que je voudrais quand même dire et rappeler ce soir, en essayant de présenter d'une manière assez compréhensible ce fameux épisode dramatique, c'est que Dieu a établi, quand il a créé le ciel et la terre, Dieu créateur tout-puissant, figurez-vous que Dieu a établi un courant de haute tension. Il a établi un courant de haute tension, et je précise, morale, dans l'univers, et ce courant se nomme la sainteté. Voilà. Se nomme la sainteté. Et nous, quelle idée pouvons-nous avoir de la sainteté de Dieu? En tous les cas, en ce qui concerne Ananias, il n'en avait aucune. Pierre avait déjà une notion. Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il y en a eu d'autres. Paul va tomber par terre, lui. Et puis, il y en a d'autres expériences comme ça. Alors, il y a ceux qui vont véritablement, eh bien là, comprendre que on ne peut pas toucher à ce courant de haute tension. C'est pas possible. Et sans finalement, eh bien, avoir les conséquences. Mais j'ai bien aimé cette présentation, quelque part, de cette intensité morale que Dieu demande. Je suis saint, vous serez saint. Alors, c'est pas à nous de faire la sainteté. Hein. Parce que quand on veut faire de la sainteté, on ne fait que le contraire de ce qu'il faudrait faire. Mais il y a dans le message de l'Évangile, et précisément ce texte se trouve dans l'Évangile, et non pas dans l'Ancien Testament, pour nous montrer, il y aura toujours des Ananias et des Saphira. Mais il y a aussi des Pierre, il y a des Paul, il y a tous ceux des gens qui, quelque part, eh bien, ont cette crainte et ce respect de Dieu, et sans qu'ils véritablement puissent le définir, ils savent qu'il y a des limites à tout cela. Et c'est cette interdiction, danger de mort. D'ailleurs, un jour, vous le savez, Moïse a demandé à Dieu, il voulait voir le visage de Dieu, il voulait voir Dieu. Dieu lui a répondu, on ne peut voir Dieu et vivre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors donc, l'humanité est dans cet état, comme Ananias. Mais ce n'est pas irréversible. Dans l'Ancien Testament, c'était irréversible. Il n'y avait pas grand-chose. C'était la loi. Mais dans le Nouveau Testament, il y a une autre dimension, qui est celle de la grâce. Et pour s'en souvenir, c'est que, on peut le traduire de cette manière, hein, je peux paraphraser de cette manière. Vous vous souvenez de l'histoire dans le Jardin d'Éden, au chapitre 2. Deux arbres. Dieu lui dit, tu pourras manger de tous les arbres, sauf de celui-ci. Je te conseille de manger de l'arbre de la vie, mais tu ne toucheras pas à celui-ci. Il est dit exactement, tu ne mangeras pas. Mais ça voudrait dire un petit peu par rapport à ce courant d'intensité morale, eh bien, qu'il y a aussi des choses qu'il ne faut pas toucher, tout simplement, parce que tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'à ce moment-là, tu mourras. Et de fait, Adam et Ève, et puis toute leur descendance, jusqu'à nous, de fait, le péché est venu par un seul homme, et le péché s'est répandu à toute l'humanité. Et encore aujourd'hui, des milliers et des milliers d'années après, bien les hommes meurent. Tout simplement. comme s'ils étaient commotionnés, comme s'ils étaient électrocutés, parce que finalement, eh bien, c'est un attentat, eh bien, aussi, à ce Dieu qui est un Dieu saint, mais qui n'est pas seulement saint, mais qui est aussi un Dieu d'amour. Et c'est là où justement intervient le Nouveau Testament. C'est là où intervient Jésus. C'est là où intervient la grâce. C'est là où intervient tout simplement, eh bien, l'acte d'amour de Dieu à travers la croix, à travers tout simplement, eh bien, je ne sais pas si Ananias avait bien compris le message de Jésus crucifié, de Jésus ressuscité et de Jésus glorifié, surtout de Jésus crucifié, un Dieu d'amour. Et Dieu a entrepris, mais toutes les choses étaient conçues d'avance, hein, faut pas, c'était pour le dernier moment en disant qu'est-ce que je fais, hein. Non. C'est que, quelque part, Dieu va ranimer, si vous me permettez toujours d'employer un petit peu dans cette pensée de commotion, l'homme commotionné par le péché, dès le départ de sa création, par son esprit. Et c'est là où intervient la nouvelle naissance. L'homme tombe mort, mais l'homme n'est pas mort réellement, si véritablement il prend conscience de la sainteté de Dieu et de l'amour de Dieu, et à travers cette nouvelle naissance, cette prise de conscience, le prix du salut, la rédemption, le don gratuit de Jésus, alors à ce moment-là, l'homme peut être commotionné. Nous sommes, avant de nous convertir, nous étions tous des commotionnés. Nous étions tous morts. Parce que nous avions touché à, certainement, et bien là, à un courant à haute tension, c'est-à-dire la sainteté de Dieu. Personne ne peut être sauvé, hein, sans cela. Le seul qui pouvait véritablement faire le... Excusez-moi, mais les mots sont peut-être pas appropriés. Mais pour comprendre, le seul qui pouvait faire le fusible, c'était Jésus. Jésus a fait le paratonnerre. La colère de Dieu est tombée sur Jésus pour que nous puissions finalement, eh bien, revivre par une renaissance, par une nouvelle vie, tout simplement. Et ça s'appelle la grâce. La loi tue. Tu touches, tu meurs. C'est interdit. Vous connaissez les commandements. C'est interdit. Danger de mort. C'est clair. C'est tout l'Ancien Testament. Et maintenant, eh bien, il y a la possibilité pour l'humanité d'autre chose. C'est la grâce. Et dans la foi. Et je ne me lasserai pas jusqu'au bout de répéter ce que Paul dit, parce que c'est l'essentiel. C'est, nous pourrions dire, le fondement et le socle du message de l'Évangile. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est Jésus, tout simplement, que j'ai saisi dans un mouvement de foi, de confiance. Et là, à ce moment-là, eh bien, ma vie va changer. L'homme électrocuté va se relever. Il va vivre tout à nouveau. Alors, puisque l'homme a pris le risque dès le jardin d'Éden, et dans toute l'histoire subséquente, dans l'Ancien Testament, et même les meilleurs hommes, les plus grands hommes, des hommes de foi, prophètes y compris, des hommes qui servaient Dieu, ont péché et ont chuté. Nouveau Testament, ça continue, mais avec un changement de régime. Ce n'est plus le châtiment, c'est un acte d'amour où Dieu nous fait grâce. Alors, puisque l'homme a pris le risque, finalement, de toucher, ce qu'il ne faut pas toucher, ce courant de haute tension, eh bien Dieu sait que le premier secours originel qu'il a manifesté, on le sait par exemple dans le chapitre 3, il y a la chute et tout de suite il y a la réponse. Et après qui va se développer au fil des temps, dans les âges, dans l'évolution finalement des hommes, du peuple d'Israël choisi, du peuple élu, à travers son cheminement jusqu'à nous. Vous savez quoi? On a quand même beaucoup de chance de vivre dans le Nouveau Testament, dans cette disposition, dans cette dispensation, pardon. Alors, le premier secours originel a fait apparaître, eh bien, parce que Dieu voulait que l'homme le sache, ce que l'on peut appeler, ce que Paul appellera le vieil homme. Eh oui. Ou la vieille femme, si vous voulez. Si ça vous fait plaisir, je voudrais pas vous oublier, mesdames. Mais... vous avez compris, c'est pas une question d'âge. C'est une question de nature. C'est une question d'être. Tout simplement le vieil homme, qui est tenu par l'atavisme du mal et du péché, cette propension toujours, même avec des bonnes résolutions, même avec un bon vouloir, même en engageant notre volonté, qui ne tient que si peu de temps, elle est éphémère, cette bonne volonté, on est toujours amené, finalement, à toucher ce courant de haute tension qu'est la sainteté de Dieu. Et on la défie, Et c'est bien ce qui s'est passé pour Ananias. Il a défié. Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. C'est d'autant plus grave. Alors, Ananias et Saphira sont morts, on l'a lu. Une grande crainte saisit tous les auditeurs et les spectateurs. Ils ont vu tomber. Alors, il aurait pu tomber, on aurait dit qu'il a fait une crise cardiaque. Mais il est mort parce que Pierre lui a parlé. C'est ça dans l'esprit des gens, parce que quelqu'un, voilà, on est en train de parler avec quelqu'un, il tombe, voilà, il a fait une crise cardiaque, apoplexie, tout ce que vous voudrez. Bon, mais là, c'est parce qu'il y a eu un signe. Il y a eu quelque chose de fort qui a été signalé à Ananias qu'il a touché le courant à haute tension, la sainteté de Dieu. Alors, une crainte. Je peux vous dire que les gens ils se sont dit, alors ça ne plaisante plus maintenant. Hein. Les jeunes gens s'étant levés, l'ont emporté, l'ont enseveli. Et puis, dans la suite, il étant dit, environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, il devait l'attendre, probablement. Et il va lui poser cette question, « Mais dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu ce champ ?» Alors là, on va être témoin de quelque chose encore particulier. « À quel prix vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » C'est-à-dire que il y a du mensonge. Ils se sont mis ensemble. Ouais, ils se sont mis ensemble, ils se sont unis. Ils s'étaient passé le mot. Voilà, j'y vais d'abord, dit Ananias, je vais faire ce qu'il faut. Et puis sa femme avait certainement reçu l'ordre de dire, eh bien tu vas dire exactement ce que je... Comme moi, hein, parce que bon, autrement on va avoir l'air de... Oui. Alors Pierre lui dit, mais comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Satan qui rentre dans ton cœur. Vous avez tenté le Saint-Esprit. Et voilà que maintenant, c'est l'Esprit du Seigneur le tenter. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et elle expira. Imaginez-vous, hein, ça fait un drôle d'effet quand même. Vous voyez ça dans une réunion, dans un culte, à un moment donné. Pouf ! C'est quelque chose, hein. C'est assez bouleversant. Je crois que c'est la première fois que je prêche sur ce texte. C'est vrai ? Parce que c'est vrai que c'est toujours assez ambigu et... Je me suis dit, mais comment présenter ça? Parce que c'est vrai que si on reste sur tout simplement le châtiment et le jugement, vous allez dormir agité cette nuit. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ceci et cela. C'est terrifiant, hein? Bah ouais, c'est quelque chose. Hein. Et c'est vrai que c'est un embarras pour les prédicateurs. Et puis, ah! Il est venu cette pensée justement de cette haute tension d'intensité de la sainteté de Dieu, pour élever Dieu. Parce que vous savez, souvent les hommes, ils rabaissent Dieu. Hein. Ils se font un Dieu qu'ils imaginent, à leur niveau, et ils se disent, bon ben voilà, hein, moi je suis comme ça, mais doit être pareil. Hein. Alors, c'est du bon marché, hein. C'est véritablement rabaisser Dieu. Et ça, Dieu ne le veut pas. Hein. Dieu reste Dieu, et nous les hommes, nous restons les hommes. Dieu nous aime pour nous sauver, il nous aime pas pour que nous soyons, que nous fassions des compromis, hein, toutes sortes de choses. Sa parole, c'est le salut, nous l'acceptons, nous l'acceptons pas, mais on ne rabaisse pas Dieu, et c'est ce qu'ils avaient fait, hein. Et ça c'est grave. Et en ce qui concerne Ananias et Saphira, eh bien ils sont morts, voilà. Ça paraît terrible ça, vous vous rendez compte? Si je mens, je vais mourir. Bon bah écoutez, ça vous est jamais arrivé de mentir, non? Et vous êtes encore vivant. Et oui, parce que c'est la grâce de Dieu. Et les gens qui mentent, qui trompent dans le commerce, qui trompent dans la politique, qui trompent dans toutes sortes de choses. J'allais dire qui trompent. C'est un lapsus, hein, excusez-moi. Mais c'est pour vous dire que ils le font à main levée. Vous savez, comme Pharaon, hein. Ah, parce que ceux qui pensent comme être comme des dieux. Hein. Même si ce sont des simples gens, le mensonge, c'est quelque chose de terrible. Il nous est dit que le mensonge, c'est comme des graviers dans la bouche. Vous avez vu ça dans le livre des Proverbes, hein? C'est vraiment pas très agréable. Alors, ils sont morts, et si nous pouvons voir un petit peu pourquoi ils sont morts, il y avait le mensonge, l'habitude, donc pas de conversion. Bon, Vous allez me dire, il faut pas radicaliser, et je suis tout à fait d'accord. On a peut-être menti, on a peut-être été des fameux menteurs, on a roulé les gens avant notre conversion. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, du soir au matin, eh bien là, le lendemain matin, nous allons revenir, nous ne serons plus des menteurs pour... Non, quelquefois, il y a l'atavisme. Il y a ce vieil homme qui est là, hein, et puis bon, on se reprend. Comme Pierre s'est repris, Ananias s'est pas repris. Et on dit, Seigneur, délivre-moi, aide-moi à ne plus mentir, aide-moi à dire la vérité. Bon, mais le Seigneur nous fait grâce. Mais pas de la manière dont Ananias a fait les choses. Hein. Donc le mensonge. Il y avait leur double jeu. Ils s'étaient entendus, ils avaient... Mais pourquoi ? Pierre leur dit, mais vous aviez un champ, vous allez le garder, vous aviez l'argent, il fallait le garder, on vous a rien demandé. C'est pas bien de suivre les autres. Hein. On veut faire comme les autres pour avoir bonne mine. Eh ben ça, c'est complètement faux. Si on n'a pas de conviction personnelle, c'est pas la peine d'aller plus loin. Excusez-moi, je suis un peu... Non, mais c'est vrai. Dieu va pas nous demander de dire, eh ben, t'es bien parce que tu suis celui-ci, tu fais comme celui-là, etc., etc. Non, faut avoir une conviction. La duplicité, qui va avec, naturellement. Et puis leur manque de loyauté. Ils voulaient servir Dieu. Mais comment servir Dieu quand on est dans cette... ambivalence, dans cette équivoque à ce point, c'est ce qui leur sera reproché. Il faut être intègre. On n'est pas parfait, mais on peut être intègre. Il nous est dit que Job était intègre, il était droit, il était juste autant qu'on puisse l'être, mais ne pas jouer la comédie, c'est pas possible. Manque de loyauté qui les a tués. Et puis, vous en souviendrez, tromper Dieu comme ils l'ont fait, et lui présenter des offrandes falsifiées. Ben oui, il voulait apporter ça aux hommes, mais c'était une offrande à Dieu, mais des offrandes falsifiées. Il nous est dit que la balance juste appartient à l'Éternel. C'est pas la peine de mettre des points en moins ou en plus. On fait ce que nous avons résolu de faire. Pas de culpabilité si nous faisons ou ne faisons pas, si nous avons déjà une conviction à l'intérieur de nous-mêmes, mais pas tromper, pas finalement eh bien avoir l'apparence d'eux, et puis les offrandes falsifiées, c'est indigne devant Dieu. Et vous savez que nous avons l'exemple de Caïn, hein, c'était aussi une histoire d'offrande, mais c'était pas clair, parce que Dieu a posé un regard sur Abel, parce qu'il y avait une authenticité de cœur, de vérité, mais il n'y avait pas chez Caïn, naturellement. Vous connaissez l'histoire de Nadab et Abihu, qui ont apporté un feu étranger à un moment donné, et le feu s'est enflammé parce que finalement ils l'ont fait dans une mauvaise disposition. C'est terrible ça aussi. Hein. Alors en conclusion, je voudrais simplement vous dire que les jeunes gens étant rentrés, la trouvèrent morte et ils l'emportèrent et l'ensevelirent. Sinistre journée, hein, auprès de son mari. Et là, à ce moment-là, pour la deuxième fois, il nous est dit, mais une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Au départ, c'était les auditeurs, maintenant c'est l'assemblée, et de tous ceux qui apprirent ces choses. Oui, ces choses sont arrivées afin de nous servir d'exemple, comme dit l'apôtre Paul, etc., etc. Ça, la sainteté et la bénédiction vont de pair, et je voudrais vous en donner la preuve. La suite. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, les Ananias et les Saphira d'occasion, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins les couvre. En couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines, à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Je dis bien que sainteté et bénédiction, ça va ensemble. Et c'est vrai pour un homme, c'est vrai pour une femme, c'est vrai pour un chrétien avant tout, et c'est vrai pour une église. On est loin d'être parfait, mais le Seigneur nous appelle à marcher dans la droiture et dans la rectitude de cœur. C'est ce qui est dit, hein. Beaucoup de miracles se faisaient au milieu du peuple. C'est comme s'il y avait un poids, c'est comme s'il y avait une charge avec à traîner. Eh bien, là, dans l'assemblée nouvelle, dans l'assemblée naissante de l'église primitive, des gens comme Ananias et Saphira. Comme un petit peu plus tard, ça ne tardera pas, quand ils ont voulu évangéliser Samarie, il y avait un Simon le magicien éjecté. Et à ce moment-là, il nous est dit que la bénédiction est revenue. Et ça, c'est quelque chose. Et c'est pas aux hommes de faire le nettoyage. Parce que c'est pas Paul, c'est pas Pierre, hein. C'est pas Pierre, hein. Mais c'est le Seigneur. Et moi, je crois que il faudra s'en souvenir, mes frères et sœurs, que la bénédiction de Dieu, elle marche avec les hommes et les femmes dont le cœur a été transformé et changé, né de nouveau, converti et qui porte des fruits. Pas des œuvres. Les œuvres, je ne dirais pas que c'est accessoire, mais c'est des fruits. Alors à ce moment-là, Dieu ouvre les portes et il bénit. Et c'est ce que nous voyons très souvent dans le livre des Actes des Apôtres, qui est le témoignage quand même de l'histoire, de ce qui s'est passé dans le premier siècle du christianisme. Ça, c'est important. Sainteté et bénédiction vont ensemble. Et là, il semblerait que, une fois cet homme et cette femme, eh bien là, le problème a été réglé. Dramatiquement, c'est vrai, on ne peut le regretter. Mais il semblerait qu'après, c'est une explosion. Il est tout de suite dit, hein, tout de suite, au chapitre, au verset 12, mais beaucoup de miracles se faisaient. Ben, c'est ça. Je crois que ça, c'est important. Et je terminerai par un passage dans le Deutéronome. Ah, le Deutéronome, c'est l'Ancien Testament, mais après, il y avait quand même des choses. Mais qui nous parle d'Ananias et Saphira, si vous voulez. Deutéronome, chapitre 23, et verset 21, qu'est-ce qu'il est dit? Si tu fais un vœu à l'Éternel, t'es pas obligé d'en faire. Mais si tu en fais un, t'es pas obligé. C'est comme ce qu'Ananias et Saphira voulaient faire. T'étais pas obligé d'amener l'argent et puis tout ça. Mais si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte. Waouh, c'est sérieux. Et tu te chargerais d'un péché. C'est ce qui s'est passé. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu as le droit. Tu ne commettras pas un péché. Mais ton péché consiste à faire un vœu et de pas le tenir. C'est ça le problème. Que votre oui soit oui et que votre non soit non, nous dit Jésus. C'est Jésus qui le dit, c'est pas un apôtre ou quelconque. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel. Personne n'est obligé dans cette église de faire. Personne. Non? Quelqu'un qui veut donner son offrande, il la donne. Celui qui ne veut pas, il la donne pas. Il n'est pas obligé. Maintenant, c'est la dimension de notre amour pour le Seigneur et de la reconnaissance, de la gratitude que nous pouvons avoir vis-à-vis de lui. Et là, ça parle plus fort que tout le reste. Parce que c'est pas une histoire de calcul. C'est une histoire tout simplement de disposition volontaire et de bonne disposition. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Voilà, tout simplement. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé, dit David. C'est lui qui crée en nous un cœur, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Eh ben, c'est ça. C'est ça, finalement. Et c'est les dangers. Ce soir, j'ai voulu mettre devant vous les dangers du double jeu. C'est pas possible. C'est pas possible. À un moment ou à un autre, il y a un règlement. Il y a une solution. Et je pense que quand on sait que Dieu nous aime, c'est pas pour nous perdre. Moi, je pense que Jésus avait été envoyé également pour Ananias et Saphira. Il avait été envoyé également pour un Simon le magicien, mais lui, il voulait pas renoncer à sa magie. Parce qu'il se tenait pour un homme important. Le jeune homme riche, lui aussi, Jésus est venu vers Jésus. Jésus lui a dit la vérité. Il ne pouvait pas renoncer à ses richesses. Il ne pouvait pas renoncer. Et pourtant, il connaissait la parole. Parce que c'est lui qui a répondu à Jésus. Tu connais les commandements de Dieu? Et il va citer les commandements de Dieu les uns les autres, etc., etc. Quand Jésus lui dit, viens et suis-moi, il ne peut pas le suivre. C'est pas possible. Son cœur n'est pas prêt, son cœur n'est pas préparé. Et il ne veut pas que son cœur, finalement, suive les paroles de Jésus. Alors, il s'en va tout triste. C'est terrible. C'est terrible. Mais c'est pourtant la réalité. C'est pourtant, finalement, eh bien, ce que nous enseigne ce texte difficile, et je l'avoue, mais il y a quand même une leçon derrière, pour chacun, pour nous montrer que dans l'Église primitive, ils étaient qu'une seule âme, qu'un seul cœur, un seul esprit, et ils servaient le Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce soir. J'espère que je ne vous ai pas traumatisé. Hein. Non, parce que vous avez compris qu'on est sous le régime de la grâce. Mais ces choses nous sont dites tout simplement pour nous servir d'exemple et que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne cette crainte. Non pas cette peur de Dieu, mais cette crainte pour le respecter parce que, je le rappelle encore une fois de plus, hein, c'est une ligne, c'est un courant à haute tension. On ne touche pas la sainteté de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole. Nous voulons, en effet, Seigneur, te remercier parce que nous croyons que même si ce texte est consigné dans véritablement ce livre précieux, merveilleux qu'est le Nouveau Testament, c'est-à-dire tout simplement, Père éternel, la loi de la grâce, la loi de la foi. Alors, c'est tout simplement pour nous montrer que si ces choses ont leur réalité, ont eu leur réalité, c'est qu'en effet, Seigneur, tu frappes à la porte des cœurs. Tu nous demandes tout simplement, avec un esprit de bonne volonté, de vouloir, Seigneur, eh bien que tu fasses ton œuvre de sanctification dans nos vies. Oui, Seigneur, notre Dieu est saint. Tu le dis, je suis saint, alors vous serez saint. Mais Seigneur, ce n'est pas à nous de la fabriquer, cette sainteté. On n'y arrivera jamais. Ce n'est pas à nous de nous donner pour être des saints. Mais pour nous, Seigneur, la signification de saint, c'est tout simplement séparé de l'esprit et de la mentalité du monde. Et nous croyons que des hommes comme Ananias, Saphira, n'étaient pas séparés. Le monde était encore dans leur cœur, dans leur pensée. Ils voulaient encore avoir l'air de paraître. Ils voulaient jouer un double jeu. Ils voulaient encore avoir, eh bien là, Seigneur, cette considération, alors que, quelque part, d'une manière brusque, d'une manière soudaine, tu as mis au grand jour, en effet, l'état de leur cœur et de leur esprit. Merci, Seigneur, parce que tu es venu pour sauver. Et tu nous offres encore la possibilité, à travers cette simple méditation ce soir, de te prier et de dire, mais change-moi, change mon cœur, Seigneur. Mets quelque chose de nouveau dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur. Nous en avons besoin les uns et les autres, tous. Et merci, Seigneur, parce que il y a eu un Ananias, mais il y avait aussi à côté, eh bien, un Pierre, qui lui s'est retrouvé à dire des choses alors que lui-même y était passé, mais il y a eu une véritable repentance, conversion. Quand tu seras converti, édifie, eh bien, tes frères, c'est ce qu'il a fait. Et nous te bénissons et nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.